dirait des nouvelles est au Festival d'Avignon. Jean-François Cadet, Michael Goncalves,
Baptiste Antoine, Margot Bédé, Philippe Nadel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois à l'Hôtel d'Europe qui nous accueille toute la semaine dans ce studio décentralisé installé par Philippe Nadel avec des micros posés sur une table ronde. Et ce n'est pas innocent car depuis que nous sommes à Avignon, j'ai appris une chose certaine et très importante. Quand on vous invite à dîner autour d'une table longue, qui plus est avec une nappe blanche, eh bien il vaut mieux vous méfier.
Je vais faire un grand dîner. Voilà ce que je vais faire, un grand dîner autour d'une table rectangulaire. Et immaculé.
Ainsi parle Hélène, l'un des 7 personnages de Kamikaze, la nouvelle pièce de Stéphane Guérin qui sera avec nous dans un instant. Mais c'est par un autre dîner de famille que nous allons commencer, celui qui réunit Atrée et son frère Thieste dans la cour d'honneur du Palais des Papes, là aussi avec une longue, très longue table recouverte d'une nappe. Un dîner cannibale, celui-là, avec en maître de cérémonie l'acteur et metteur en scène Thomas Joly, avec sa compagnie, la Piccola Familia. Il a le don de rendre les textes limpides et d'en faire goûter tout le suc à travers un théâtre total, spectaculaire, émouvant, intelligent et populaire, pas une minute d'ennui, des idées à profusion et 2h30 de jubilation. Thieste de Sénèque, dans la traduction de Florence Dupont, est à découvrir jusqu'au 15 juillet et vous m'en direz des nouvelles. Thomas Joly.
Bonjour Jean-François Cadet.
Pourquoi monter Sénèque aujourd'hui?
Parce que malgré toutes ces années qui nous séparent de l'écriture de cette
2000
pièce,
ans quand même.
Bah oui, il l'a écrit au 1er siècle après Jésus-Christ. Eh bien, il réinterroge la violence des hommes et même là de deux frères, hein, puisque ce sont deux frères jumeaux même. La violence inhérente à l'âme humaine, enfin aux êtres humains, et puis les débordements du pouvoir qui plongent par orgueil ou par vilainie ou voilà l'humanité dans sa perte, salissant toujours un peu plus les générations à venir, quand on va contre la nature, quand on va contre les biens humains, eh bien, le soleil fait demi-tour. Et tout ça me semble, hélas, d'une cruelle actualité.
Il y a quelque chose de très shakespearien dans ce que vous nous expliquez là, Thomas Joly. C'est d'autant que vous connaissez très très bien, c'est le mot qu'on peut dire, Shakespeare. Là, il y a une sorte de gémellité, pour
clairement,
le coup, justement.
Alors, moi je pense qu'on pourrait dire que Sénèque est le grand-père de Shakespeare. Effectivement, Shakespeare, moi je l'ai travaillé pendant 9 ans, c'est ma plus longue relation, figurez-vous, hormis avec mes parents et ma petite sœur. Mais forcément, on tombe sur Sénèque à un moment donné, quand on est en train de travailler sur Shakespeare. Et oui, Shakespeare s'est inspiré, voire carrément copier-coller Sénèque, notamment sur la construction des personnages. Alors si Shakespeare est un fleuve bouillant, remuant, baroque, avec de la poésie, une langue très déployée, Sénèque, lui, est un désert de cailloux, aride, sec à l'os, beaucoup plus radical, mais c'est certain qu'il a puisé beaucoup d'inspiration.
Thieste est une pièce très noire, c'est l'histoire, donc on le disait, de deux frères jumeaux qui se sont disputés un trône, et dans ce combat, Thieste a triché, il a séduit la femme de son frère Atrée pour lui ravir le symbole du pouvoir. Les dieux ont dénoncé la tricherie. Atrée est monté sur le trône, il a envoyé son frère en exil, mais malgré la victoire, il est resté à Atrée une douleur inextinguible.
Aujourd'hui, à cause de lui et de ses machinations, j'ai tout perdu de l'héritage paternel. Ma femme est une putain. Mon pouvoir est branlant. Ma légitimité est douteuse. Ma maison est malade. Ma descendance suspecte. Sur quelle certitude puis-je encore compter? Il ne m'en reste qu'une. J'ai un ennemi sûr. Mon frère.
Et c'est vous-même qui jouez Atrée, Thomas Joly, et cette douleur atroce va se transformer en haine et en colère et ensuite en vengeance. Pourtant, au début de la pièce, Atrée, il semble hésiter quand même, il semble ne pas oser franchir le pas. Qu'est-ce qu'il fait entrer dans cet engrenage?
C'est ça qui est fabuleux avec ce théâtre, c'est qu'il ne répond à aucun code qu'on a aujourd'hui de psychologie ou de construction de personnages un peu vingtiémistes avec l'arrivée du cinéma, etc. Ce sont des personnages qui sont soumis à des signes extérieurs et des signes intérieurs. Alors, les signes extérieurs, c'est quoi ? C'est Jupiter qui frappe à la voûte céleste, c'est une maison qui tremble, c'est des dieux qui fuient la maison ou qui reviennent dans la maison. Et les signes intérieurs sont les organes, les membres qui refusent d'agir ou qui, au contraire, les poussent à l'action. Donc, il est frappé. Frappé par l'idée. Atrée n'a pas, au départ, d'ailleurs il le dit, tu ne fais rien, tu ne sais que pleurnicher, tu ne veux même pas te venger, alors qu'il a tout détruit de ta vie. Et ce qui est très beau, c'est qu'il est donc comme possédé, traversé par cette idée de vengeance. Et pour l'acteur que je suis, c'est assez passionnant parce que il faut le construire. Il faut chercher justement comment est-ce qu'on peut trouver aussi une part d'humanité à ce monstre. Et c'est la très très belle démonstration de Sénèque. Et tous ces personnages, donc toutes ces tragédies fonctionnent de la même façon. Schéma que reprendra d'ailleurs Shakespeare. C'est que on voit vraiment le passage d'un être humain malheureux, comme vous l'avez dit, à un monstre mythologique immortel.
Et qu'est-ce qui vous intéresse autant dans les monstres, Thomas Joly? Parce que ça, c'est l'une des constantes des pièces que vous montez.
J'ai été découvert, je crois que je peux plus en cacher, mais pour être tout à fait honnête avec vous, c'est une vraie belle question que je me pose. Je crois que les monstres au théâtre sont, là, sont les plus beaux personnages parce que c'est l'exubérance, parce que c'est une déformation, une loupe sur les êtres humains, sur les faces noires de l'être humain. Et que quand on est acteur et qu'on a envie d'aller creuser ces personnages-là, on est forcément obligé de retrouver une part d'humanité parce que je peux pas faire un procès à Atrée. Je peux pas le condamner dès mon entrée en scène. Au contraire, moi, ce que j'espère, c'est que les spectateurs aient de l'empathie pour lui.
Mais complètement.
Et qu'il s'embarque avec lui dans sa monstruosité.
Oui, une monstruosité. Effectivement, parce que il va donc offrir à Thieste, on peut le dire, parce qu'on connaît quand même le fond de l'histoire, hein, la viande de ses propres enfants et leur sang aussi, donc au cours d'un banquet avec cette fameuse table longue, hein, vous confirmez, recouverte de cette nappe blanche. Alors cet acte d'anthropophagie là, pour vous, c'est un acte qui défie l'humanité, ça va de soi, mais il défie aussi les dieux.
Complètement. Et c'est là où la traduction de Florence Dupont est absolument formidable, parce qu'elle redonne la teneur contemporaine aussi de ce que fait Atrée. La petite histoire, vous l'avez racontée, c'est qu'il tue les enfants. Le scénario, voilà. En tout cas. Voilà. Il tue les enfants de son frère et il lui donne à manger. Mais en faisant cela, Florence Dupont dit ce mot dans la pièce, il commet un crime contre l'humanité, il commet un attentat.
Oui. Et le mot attentat est présent dans le texte. Vous ne l'avez pas rajouté pour des raisons d'actualité ou d'air du temps.
Du tout. Florence Dupont a traduit ce texte pour Roger Blin, figurez-vous, qui est mort avant de pouvoir le monter. Donc, comme il est mort en 84, on est à peu près dans cette période-là au moment où elle traduit. Et moi, j'ai pris le texte tel quel. Et elle a raison de le dire. Et elle a raison de choisir ce mot-là parce qu'en fait, Atrée corrompt un système établi, un fonctionnement établi entre les dieux et les hommes. La religion romaine n'est pas une croyance comme on peut le considérer aujourd'hui, c'est un fonctionnement, c'est-à-dire que le dieu est dans la table, le dieu dans votre micro, bon il n'y avait pas de micro, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, les dieux sont partout et vivent en harmonie et avec les hommes, et tout est partagé entre eux via ce rite important qui est le sacrifice animal. Mais Atrée va utiliser finalement cette voie rituelle en transformant la viande animale en viande humaine, il va donc corrompre le système des dieux et des humains et donc faire s'écrouler l'humanité.
Du tréfonds de la terre, un grondement. Le tonnerre dans le ciel est limpide. La charpente a craqué comme si le palais s'effondrait. Les dieux de la maison ont bougé. Ils ont détourné leur face. Oui, il faut que cela soit. Il faut que ce crime ait lieu. Cet attentat qui vous fait peur, vous, les dieux!
Mais enfin, que prépares-tu?
Je ne sais pas ce que c'est! Mais c'est grand, trop grand pour un cœur ordinaire. Ma poitrine se gonfle. Ce n'est plus une aventure humaine. Mes mains s'éveillent. Elles vont agir. Je ne sais pas ce que c'est! Un exploit de géant! Oui, je le veux. Vas-y, courage! Tu le tiens! Ce sera un exploit digne de Thieste. Ce sera un exploit digne d'Atrée. Un exploit digne de les réunir. Jadis, un palais fut le théâtre d'un repas cannibale. Ce fut un crime bien horrible. Mère et sœur de Daulis, Insufflez-moi votre courage. Notre cause est la même. Assistez-moi et dirigez ma main.
Et les spectateurs et les acteurs, évidemment, sont précisément dans un palais, Thomas Joly.
Ben,
et
oui.
Pas dans n'importe quel palais, le palais des papes, ici à Avignon. Vous avez introduit la monstruosité dans le cœur même du palais des papes.
En tout cas, c'était l'idée de faire de ce palais, cette grande aventure artistique qui m'a été proposée, offerte hein, par Olivier Py, de recréer le palais d'Atrée. C'est-à-dire qu'en termes de scénographie, j'ai pas grand-chose à faire.
Oui.
Mais oui, introduire la monstruosité.
Mais le palais est presque vivant, d'une certaine façon.
Et ça, c'est grâce à Sénèque. C'est-à-dire que Sénèque n'est pas que de la tragédie, c'est une tragédie, mais c'est aussi du théâtre fantastique. On l'entend là, vous, dans l'extrait que vous avez choisi.
Les éléments participent effectivement de la haine, de la douleur et du crime.
C'est ça.
De la monstruosité.
Et le palais incite presque, enfin, en tout cas, a peur et tremble sur ses bases au moment où Atrée est en train de passer de l'humain, ce qu'on vient d'entendre, au monstre. Et donc avoir ce mur. Je rappelle aussi que le théâtre romain se jouait devant de très grands murs, devant même 17 000 personnes. Avoir ce mur derrière nous et ses fenêtres et ses pierres et ce vrai palais aurait pu suffire en scénographie. Et du coup, tout de suite, ça a été évident pour moi de monter ça là.
C'est un lieu idéal pour monter un texte antique.
Ça me semble tout à fait pertinent. Ouais.
Alors, le reste du décor est lui aussi assez impressionnant. Alors, il est très simple, hein, d'une certaine façon. Il y a deux fragments de statues, comme ça, deux vestiges. Alors, on comprend pas tout de suite exactement pour quelle raison, mais je laisse le spectateur le découvrir. En tout cas, c'est vraiment dans cette cour d'honneur que résonne donc cette douleur, cette colère, cette haine d'Atrée, et ensuite le désespoir de Thieste. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ces deux frères, ce sont des jumeaux. Est-ce que la gémellité donne un relief particulier à cette haine-là?
Je crois, parce que ils sont semblables. Si je fais mal à mon frère, alors je me fais mal à moi-même. D'ailleurs, le courtisan le dit au début. Mets-toi bien dans l'esprit que faire du mal à son frère, même si c'est un mauvais frère, c'est attenter à l'humanité. Donc, en fait, ils s'auto-ingèrent, mais ils se font mal. En fait, c'est vraiment pour moi un cul-de-sac, cette tragédie. C'est-à-dire que Atrée, faisant du mal à son frère Thiès, fait du mal à lui-même et fait du mal à l'humanité entière. D'ailleurs, à la toute fin, je n'ai pas révélé, mais il y a un twist final où le crime d'Atrée était aussi dans la tête de Thieste. Enfin, ils sont vraiment égaux dans la monstruosité. Et d'ailleurs, ce sont tous deux des monstres mythologiques. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. La tragédie a ça de terrible qu'elle nous laisse dans l'impasse sans solution.
Et puis, il y a aussi un autre personnage qui, pour lui, ressemble réellement à un monstre lorsqu'il apparaît sur scène, une apparition complètement fantomatique. C'est par cette apparition-là que débute d'ailleurs le spectacle. Et on dit bien un spectacle, parce que pour vous, Thomas Joly, le théâtre doit être avant tout spectaculaire, dans tous les sens du mot.
Alors oui, spectaculaire et vivant, spectacle vivant. Je crois à la beauté de l'image, je crois à la force de la machinerie, de tous ces métiers à l'œuvre, au théâtre, machinaux, cintriers.
Sauf la vidéo.
Alors voilà, et je n'ai pas, avec ce médium-là, cet outil-là, je n'ai pas trouvé, moi, ma façon de raconter des histoires avec...
Mais c'est pas une question de principe, c'est plus une question d'opportunité.
Oui, c'est-à-dire que je c'est pas du tout un principe, c'est que cet outil ne m'amuse pas, ne m'intéresse pas. Dans les spectacles, en tant que spectateur, je peux apprécier, mais moi, travailler avec cet outil, ça ne m'intéresse pas. Et donc, comme Sénèque nous envoie beaucoup de commandes fantastiques, et vous l'avez dit, par exemple, cette apparition fantomatique de Tantale qui sort des enfers du fleuve Tartare dès le début du spectacle, eh bien allons-y, travaillons à cette dimension spectaculaire. Allez, je sors Victor Hugo parce que
il a une
phrase formidable. Il dit, il y a deux manières de passionner la foule au théâtre, par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l'individu. C'est exactement ce que j'essaye de mettre en pratique. Le grand, pour moi, c'est venir au théâtre, c'est assister à une œuvre qui frappe l'oreille, qui frappe l'œil, qui frappe le corps. On reçoit du vent, bon là, il se trouve qu'on est en extérieur. Mais même en salle, j'ai envie de susciter, voilà, par le grand, les sensations et les émotions. Et le vrai, ce sont les acteurs qui sont porteurs du texte. Et tout vient du texte, tout, hein, parce que je ne fais pas juste des images pour rigoler, pour m'amuser. J'essaye de traduire le mieux que je peux, avec mes équipes de création qui sont formidables, ce que nous commande l'auteur.
Alors vous parliez de Tantale à l'instant, Thomas Joly. Tantale sort effectivement des eaux, des enfers, et il va se retrouver très vite cerné par une furie, une furie qui s'avance et qui prononce une forme de malédiction.
J'avais... que champion de tous les crimes, il s'affronte. Épée contre épée. Plus de morale, plus de mesure. Je veux la vengeance pure. La folie harcèlera leurs esprits embrumés et la rage des pères revivra chez les fils. À chaque génération, je veux des criminels bravant l'ordre divin des choses. Aucun n'aura le temps du remords. Sans cesse renaîtra le mal. La vengeance fera pulluler les crimes. D'un seul, il en sortira 10. Je le veux.
Anne Mercier dans la cour d'honneur du Palais des Papes avec tous ces serpents comme ça autour d'elle. Thomas Joly, vous le disiez tout vous-même, il y a une vraie dimension fantastique, surnaturelle, parfois un peu SF aussi, un peu science-fiction dans votre mise en scène.
Je crois que ce qui se rapproche le plus du théâtre roman aujourd'hui, oui, c'est la science-fiction, tout à fait.
Oui, mais c'est-à-dire la science-fiction portée justement en particulier par des effets visuels ou la science-fiction vue sous l'angle, on peut dire, plus politico-philosophique.
Je pense les deux. Évidemment, visuel, parce qu'il y a beaucoup de fantastique. Oui, Jupiter frappe à la voûte céleste. Oui, le palais tremble. Oui, un damné sort du fleuve des enfers.
Oui, Tantale, il aurait pu être un personnage de manga.
Exactement. Mais de manga ou bien c'est Florence Dupont en fait qui m'a mis ça dans l'oreille, dans la tête plutôt en me le disant, et je suis tombé de ma chaise parce qu'elle me dit bien sûr ce sont des personnages qui sont soumis à des forces très grandes, plus grandes qu'eux, et alors dans la SF ça peut être les extraterrestres, ça peut être des monstres aliens, etc. Et puis sur Alien, justement moi je suis assez fan du premier Alien.
Oui.
On ne le voit jamais Alien, et c'est exactement ce que j'ai voulu faire, parce que là on parle de barbarie, cannibalisme, d'infanticide, etc., mais il n'y a pas, enfin, t'as très peu de sang sur le plateau, et surtout, les actes ne sont pas montrés. C'est donc bien qu'on travaille, comme la science-fiction, sur une représentation mentale du spectateur aussi. Et puis, politiquement, bien sûr, puisque c'est une... un mythe, ce qu'on pourrait appeler une dystopie aussi, oui, aujourd'hui, d'une histoire qui est plutôt... nihiliste, hein, pour le coup, qui montre que qui nous donne pas beaucoup d'espoir. C'est pas qu'elle nous donne pas d'espoir, parce que moi je trouve que justement se retrouver dans les ténèbres telles que nous sommes à la fin du spectacle permet de rallumer la lumière, au moins en tout cas de prendre conscience que les ténèbres nous environnent et que donc notre force et puis notre action peut être de rallumer la lumière.
Alors c'est vrai que c'est un spectacle pour le coup très noir et en même temps très coloré, parce que les costumes, et en particulier le vôtre, hein, ce jaune du costume d'Atrée, les costumes sont vraiment très, très colorés, très brillants. Comment est-ce que vous avez choisi les couleurs? Je sais que c'est vraiment quelque chose d'important aussi pour, oui, vous, visuellement parlant.
Je savais qu'on serait dans une austérité, parce que aussi belle que soit la cour d'honneur, elle est très austère. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Les pierres ne sont pas vives et très, très blanches. Le palais, c'est quand même la plus grande construction gothique du Moyen-Âge. Donc, on est quand même dans une architecture plutôt assez grossière, entre guillemets, même si c'est magnifique. Mais voilà. Et donc, il y a une austérité. La pierre, le décor que j'ai posé, ce colosse posé sur le plateau, est aussi aux couleurs de la pierre. Le plateau est noir. Et puis surtout, je voulais travailler avec la nuit qui décline. C'est pour ça que le spectacle est à 21h30 pour avoir un petit bout de lumière du jour aussi. Et donc, je voulais trancher nettement avec ces couleurs. Et parce que la science-fiction a été à un moment donné une piste pour nous tous, avec la costumière, on a décidé de travailler sur des silhouettes très, très dessinées et des couleurs très dessinées. Pourquoi ? Parce que n'oublions pas que ce théâtre était joué à la base par des acteurs qui portaient des masques et que immédiatement, les masques étaient reconnaissables d'entrée, dès l'entrée en scène des acteurs. Voilà Atrée, voilà Thiès, voilà la Furie, et que donc il fallait avoir des silhouettes très, très, très claires. Le jaune, après, c'est la couleur du traître, c'est la couleur du cocu, c'est la couleur du soleil.
Donc ça vous plaît.
Donc ça m'a, voilà, c'était très bien pour Atrée, ouais, tout à fait.
Alors on l'a compris, on est vraiment dans un spectacle total avec également la musique, hein, signée Clément Mirguet, musique créée, je crois, au fil même des répétitions, donc ouais, en cours de création et qui participe pleinement au tourment du personnage. Spectacle total, donc à la fois très contemporain, mais qui reprend certains des codes du théâtre antique, comme le cœur romain, incarné par une actrice qui slame Emmeline Frémont.
Et par la peur, mais surtout par la fidélité. Un roi, ce n'est pas un manteau pourpre, ce n'est pas une couronne royale, un plafond étincelant d'or. Un roi,
Ce n'est pas la puissance et la richesse. Celui-là est roi qui s'est libéré de ses peurs, libéré du mal qui pourrissait son cœur. Il a maîtrisé son ambition, insensible aux faveurs capricieuses d'une populace aveugle. Il ne cherche pas fortune dans les mines de l'Ouest, ni dans les sables du Tage dont les eaux charrient de l'or. Il ne va pas s'enrichir en Afrique dans la poussière brûlante des aires de battage. Il n'empile pas les sacs de blé. Un roi est inébranlable, inaccessible à la foudre oblique, au vent d'ouest qui soulève la mer, à la tempête qui gonfle l'Adriatique, invulnérable à la lance du soldat, à l'acier nu des épées. Le roi est au-dessus des dangers. Et regarde.
Sénèque serait-il un auteur de slam, Thomas Joly? On l'ignorait jusqu'à présent.
Les cœurs, c'est une vraie question. Géraud, vous savez, a dit qu'il n'avait pas monté de tragédie antique parce qu'il ne savait pas quoi faire des cœurs, et il a raison, parce que les cœurs, c'est l'énigme qui nous est posée de ce théâtre qui vient de il y a si longtemps, où la civilisation n'était pas du tout la même, où le monde a été complètement bouleversé depuis. Les gens ne venaient pas voir l'histoire d'Atrée et Thieste, ils la connaissaient par cœur, comme on viendrait voir aujourd'hui, j'en sais rien, moi, Blanche-Neige, le petit chaperon rouge. Ils venaient voir les cœurs, parce que c'était là que l'auteur déployait son style poétique, musical, dansé, chanter, et c'était ça le vrai show à l'époque du théâtre antique. Donc aujourd'hui, nous, on est un petit peu désarçonnés parce que les cœurs, on ne sait pas quoi en faire. J'ai voulu retrouver, en fait, cette parole, ce prêche philosophique, et trouver le moyen de le faire entendre, et aussi de garder ce qui était les cœurs à l'époque, c'est-à-dire des pauses entre les tableaux qui concernent les personnages. Et donc ces pauses récréatives avec cette philosophie qu'on entend là, qui est une philosophie très accessible, d'un petit côté feel good.
Oui.
Voilà, on est
pas. C'est un saut ici, hein, Sénèque.
Oui, oui, aussi. Mais c'est quand même des petites maximes qu'on peut tous se donner avec des réflexions sur le pouvoir, la fortune, le malheur, le bonheur, etc. Bon. Et du coup, je me suis dit, travaillons musicalement sur quelque chose qui serait de la poésie sonore. Alors, on parle de rap, on parle de slam, mais nous, on est parti plutôt sur du spoken words. Vous voyez comme fait un petit peu, par exemple, pour vous donner un exemple, le groupe Fauve, où la chanteuse Bams, à ne pas confondre avec Diams, ces artistes parlent, ne font que parler, mais leur scansion qui n'est pas chantée permet de remettre en relief les mots, et c'est ce qu'on a essayé de faire.
Et pour le quatrième chœur, l'actrice est rejointe par un chœur d'enfants. Alors ça peut étonner, parce que sur le programme c'est précisé quand même que les enfants peuvent être, enfin faut faire attention aux enfants, hein,
voilà, c'est interdit aux moins de 12 ans,
déconseillé aux moins de 12 ans, ouais. Et vous en avez amené des enfants
de moins de 12 ans
sur scène,
et voilà,
c'est une forme de monstruosité aussi que vous imposez ainsi aux spectateurs.
C'est marrant parce que les parents ont été inquiets, mais les enfants pas du tout.
Oui.
En fait, les enfants, n'oublions pas aussi que le théâtre romain est un théâtre, oui, politique, philosophique, empathique, mais aussi un théâtre ludique. Et que bah, le ludisme, c'est pas très loin de l'enfance, et que finalement, c'est quand même un travail qu'on fait, qu'on reste des grands enfants, entre guillemets, pour aller vite, on continue à jouer. Et donc, on leur a montré toutes ces histoires. Les enfants sont bien, bien, comment dire, au fait de la mythologie, ils adorent ça. J'ai même, moi, mon neveu, hein, qui a 8 ans, qui me disait en voyant le spectacle, oui, mais c'est pas normal, parce que Tantale, pourquoi est-ce que, bon, bref, voilà, donc c'est assez mignon.
Ouais.
Et ils arrivent sur le plateau pour représenter le cœur de l'humanité entière, et ça, ils le comprennent très bien, et d'ailleurs ils en sont porteurs, ils le défendent. Je leur ai demandé, par exemple, pour vous donner un exemple, de venir avec leur tenue préférée pour chanter ce cœur de l'humanité, oui, parce qu'elle est rejointe, pardon pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le spectacle, le soleil ayant disparu, l'humanité s'interroge sur cet avenir sans soleil, et je voulais que ce soit les enfants, donc la jeunesse, qui s'interroge et qui viennent chanter un requiem composé donc par Clément Mirguet. Donc ces enfants, je leur dis, venez habiller comme vous préférez. Et certains d'entre eux, un d'entre eux est venu par exemple avec un t-shirt de Sea Shepherd, vous voyez cette ONG qui défend la mer, etc. Et il m'a dit, moi, si je suis le cœur de l'humanité, ce qui m'inquiète, c'est l'écologie, c'est les océans, et donc j'ai envie de mettre ça sur scène, la scène du Palais des Papes, avec mon t-shirt. Et j'ai trouvé, il a 9 ans, hein, et je me suis dit, bah voilà, on est au très bon endroit, c'est-à-dire que nous défendons, il défend lui, ce qu'il est en train de jouer, à la fois en tant qu'acteur, puisqu'il joue le cœur de l'humanité entière, et en tant que citoyen.
Merci beaucoup, Thomas Joly. Restez donc encore longtemps, et peut-être même jusqu'à toujours, un très grand enfant. Thieste de Sénèque, c'est donc à découvrir à 21h30, hein, non pas à 22h, mais bien à 21h30, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, jusqu'à dimanche prochain, 15 juillet. Merci.
Merci. We'll be right back.
Stéphane Guérin.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre autour de la table du studio de RFI, dont je précise qu'elle est ronde, hein, contrairement à celle très longue de Thieste, qui se trouve au cœur de la mise en scène de Kamikaze. Cette seconde table est également très longue et recouverte d'une nappe blanche. Kamikaze, c'est donc votre nouvelle pièce, un canebouvier créé ici à Avignon et qu'il faut découvrir au Théâtre Buffon. Vous jouez tous les jours, sauf les mardis 17 et 24. Et la pièce commence justement avec l'installation de la table par les convives eux-mêmes sur cette musique de Haydn, revisitée par le compositeur Rafael Sanchez qui travaille avec vous. Et c'est donc autour de cette table que sont réunis ces six personnages, réunis par un septième, Hélène, jouée par Raphaëline Goupillot, habillée tout de blanc, souvent, mais pas tout le temps, un petit peu à l'écart de la table, sur un tabouret rouge.
Ah, je suis ballonnée. Sors d'ici, la mouche. Le monde était étrange pour moi. Avec ma perruque, il me fallait éviter les courants d'air. Sinon, chut, ça s'envolait. J'avais l'air d'une fofolle. Les gens dans la rue s'arrêtaient et me regardaient d'une drôle de façon. Les corbeaux stoppaient leur vol et me toisaient. Le bœuf mironton n'est pas pour eux. Sur les trottoirs, il me semble toujours t'apercevoir. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est jamais toi. Ce n'est jamais eux non plus. J'attends encore. Quand on attend, on est déjà avec l'autre. Dans ma cuisine, je suis une femme heureuse. Avant, je n'étais pas une femme heureuse. Maintenant, le simple fait de respirer me suffit. Voilà, je vais faire un grand dîner. Voilà ce que je vais faire, un grand dîner autour d'une table rectangulaire et immaculée.
Et ces derniers mots reviennent à plusieurs reprises dans la bouche d'Hélène, dont on sent donc, comme je le disais dès le début, qu'elle est un peu à l'écart, qu'elle assiste au dîner plus qu'elle n'y participe, hein, au fond.
Oui, elle est à l'écart. Oui, elle est de fait, puisque c'est elle qui convoque toutes les personnes qu'elle a aimées et qu'elle aime toujours, d'ailleurs.
Et qu'elle écoute, donc comme le spectateur qui essaie de capter, de comprendre qui est qui, de comprendre ce qui unit ces six personnages très différents autour de cette fameuse table. Alors on comprend assez vite, et quand on vous connaît un peu, vous, Stéphane Guérin, on comprend encore plus vite qu'il s'agit d'une famille.
Oui.
Alors une famille un petit peu particulière.
Une
famille comme les autres.
Une famille éclatée, comme toutes les familles. On a tous des familles différentes, celle du sang, celle que l'on se crée, celle qu'on cherche.
Avec quelques pièces rapportées, hein, parfois.
Mais comme dans toutes les familles, j'ai envie de dire.
Alors, un repas de famille, c'est une vraie dramaturgie en soi, Stéphane Guérin, avant même que l'on entende les mots.
C'est déjà une source de comédie magnifique.
Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans la famille? Pourquoi est-ce que vous avez décidé, pièce après pièce, de creuser justement cette étude familiale, cette étude de mœurs?
Ce qui m'intéresse dans la famille, et plus particulièrement dans les dîners, c'est que c'est un panel de l'humanité.
C'est une petite humanité.
C'est une petite humanité où
une société en miniature.
Voilà, avec les qualités, les défauts, les abominations.
Alors là, par exemple, il y a Franck, qui est l'ancien conjoint d'Hélène, joué par David Brécourt. Il y a Judith, qui est la fille d'Hélène.
Oui, comédienne.
Comédienne. Julie Cavana, son ancien compagnon qui s'appelle Thomas, qui est journaliste, et merci pour moi. Il s'appelle Valentin de Carbonnière dans la pièce. Je n'ai rien de commun avec lui, hein, je vous rassure tout de suite. Le positionnement des autres est plus incertain au début de la pièce. On laissera évidemment le spectateur découvrir, parce que ça fait partie du plaisir, justement, du spectateur de reconstituer un peu le puzzle familial. Alors, dans cette famille-là, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'interrogations, beaucoup de non-dits aussi. Est-ce que ce sont ces non-dits qui éclatent les uns après les autres dans ce feu d'artifice de mots que vous proposez aux spectateurs?
Oui, parce que les non-dits, on les règle pas, enfin, les choses ne sortent jamais dans les familles. Ça reste bien ancré, bien caché. Et on a beau attiser quelqu'un, on lui dit, mais alors dis donc, qu'est-ce que tu penses, ce que t'as fait il y a 15 ans et tout ça, ça pose pas de problème, des choses comme ça. Et non, ça ne sort pas.
Et pourtant, là, ça sort.
Ben là, ça sort. Mais
ce qui prouve bien qu'on est au théâtre.
Ben voilà, c'est la différence entre le théâtre et la vraie vie.
Alors, il y a des moments qui, pour le coup, sont complètement politiquement incorrects. Il y a des moments vraiment jubilatoires. En plus, c'est très rythmé et la parole circule de façon très, très vive, très, très fluide. Il y a des personnages qui sont à fleur de peau. On est vraiment surpris. Il y en a qui mettent vraiment le pied dans le plat. On peut dire, d'une certaine façon, Stéphane Guérin, que ce dîner, c'est une forme de catharsis, de libération de la parole, de façon de se guérir.
Oui, bah, l'écriture théâtrale, c'est toujours en premier lieu une fenêtre thérapeutique, du moins les premières pièces. Après,
mais thérapeutique pour qui ? Pour l'auteur, pour le comédien ou pour le spectateur ?
Je peux parler qu'au nom de l'auteur. Donc, en tout cas, pour moi, oui, ça a d'abord été une fenêtre thérapeutique. Ouais. Alors, on ouvre la fenêtre, on s'y jette, et puis on voit ce qui se passe. Quoi. Mais après, de pièce en pièce, on dose, on est moins.
Et vous progressez sur le chemin de la guérison ?
Ben, j'espère.
Je suis né dans un petit village de Normandie. Mon père était instituteur, une petite école dans un petit village normand. Un jour, une nouvelle élève a été admise. Son nom était Lévi. Mon père m'a dit, c'est une petite juive. J'ai trouvé ça terrifiant qu'il le souligne.
Elle aurait été marocaine, il aurait dit, c'est une petite arabe.
On a toujours une bonne raison d'avoir honte.
C'est une bonne idée d'avoir honte.
Bienvenue en Phobocratie.
Alors, comme ça, Thomas et Judith sont partis en vacances ensemble. En Allemagne. Ah, en vacances à Dachau. C'est une idée... comment dire ? Comment je pourrais dire ? C'est une idée originale. Est-ce que c'était romantique ?
En quoi ça te concerne ?
Pardon, c'est à moi que tu parles ?
En quoi ça te concerne ? En quoi tu dois te sentir concerné par notre histoire ?
Je pensais que vous aviez rompu.
Nous avions rompu. Mais le verbe rompre n'est pas définitif. Rompre n'implique pas l'irrévocable.
Vous n'allez pas vous battre ?
Vous aussi, vous avez vu Fight Club. Brad Pitt demande à Norton le soir de leur retrouvaille comment tu peux te connaître si tu t'es jamais battu.
Tu parles une langue que je ne comprends pas.
Donc du coup, je sais plus.
Stéphane Guérin, est-ce qu'on peut faire du tourisme à Dachau ?
Malheureusement, oui.
À travers cette visite de Judith, de sa fille, hein, Charlotte, à Dachau, à travers aussi le souvenir du père que racontait Franck hein, au début de cet extrait, à travers aussi le personnage de Sarah, qu'on va entendre dans un instant, on se rend compte que la judéité, la capacité ou non d'assumer, je crois que c'est le mot qui convient, d'assumer absolument le fait d'être juif, tout ça est vraiment au cœur de la pièce. Pourquoi est-ce que vous avez creusé ce sillon-là ?
En fait, je n'ai pas uniquement creusé ce sillon-là. Ce qui m'intéressait, entre autres dans cette pièce, c'est de traverser les grands thème de la seconde moitié du XXe siècle et des 15 premières années de notre siècle, du 21e. Donc c'est forcément l'Holocauste, c'est forcément le sida. Voilà, mais la pièce ne parle pas que de
non,
ça.
Non, bien sûr, mais je suis obligé de vous poser la question parce que le thème revient quand même très très régulièrement parce que c'est pas du tout une pièce linéaire et on passe pas d'un thème à l'autre, non, c'est vraiment des conversations presque circulaire d'une certaine façon parce que on a l'impression un peu de réacteur qui tourne de plus en plus vite.
Oui, c'est du ressassement. Ce personnage ressasse, mâche, vous savez, comme les vaches qui mastiquent, déglutissent et remâchent ensuite, voilà.
Oui, mais alors justement cette obsession.
Pardon pour l'image qui est pas très.
Non, mais ça correspond assez bien effectivement. Mais alors justement puisque la question de la judéité revient comme ça, je suis obligé de vous poser la question. Est-ce qu'une famille juive est une famille comme les autres dans le contexte post-Shoah ?
C'est une question difficile et délicate. Il me semble à moi qu'on ne peut plus être, enfin que les choses sont complètement différentes et qu'on vit toujours avec avec ça et que les Juifs ne cesseront jamais le travail de mémoire.
Donc voilà. Le personnage de Sarah est un peu en accord avec ce que vous venez de
absolument,
de dire. Et quand Franck revient sur les opinions de son père, c'est précisément Sarah qui lui décoche une flèche au milieu du front.
J'ai détesté mon père le jour où cette nouvelle élève est entrée dans sa classe. Est-ce qu'on peut continuer à aimer quelqu'un malgré ses opinions ?
C'est quoi la question exactement ?
Est-ce qu'on peut continuer à aimer quelqu'un même s'il est fasciste ?
Il faudrait demander à Eva Braun.
On va quand même pas comparer Hitler et le papa de Franck.
Oh, le papa de Franck, elle dit le papa de Franck ! Son père était un putain de fasciste, ça se voit tout de suite.
Pourquoi tu dis ça ?
Il suffit de regarder Franck.
Qu'est-ce que j'ai qui va pas ?
Oh, tout un tas de choses, mon petit père.
Qu'est-ce que j'ai ?
T'as la ride du lion ?
Quelqu'un veut du vin, je peux me servir ?
Oui, je t'en prie, vas-y, sers-toi. La ride du lion ?
Anus Mundi.
Qu'est-ce qu'elle dit ? Pourquoi elle gâche toujours tout ?
Je suis une mouette. C'est comme ça.
Du moment que tu nous chies pas dessus.
La merde du monde.
C'est la seule chose que j'avais envie d'écrire sur ce livre d'or à Dachau. Anus Mundi.
Alors tu trouves que j'ai une tête de fasciste parce que j'ai la ride du lion ?
Oui ! La suspicion se lit sur ton visage.
Héraclite devait certainement avoir la ride du lion.
C'était un sceptique, Héraclite.
Tout comme Marguerite Duras.
Donc tu compares Héraclite et Marguerite Duras ?
La comparaison s'arrête à la ride du lion.
Un coup de cutter dans l'œil et plus personne remarque tes rides. C'est extrêmement simple de détourner l'attention.
Gandhi, lui aussi, avait la ride du lion.
Il est indien, ça compte pas.
Et pourquoi ça compterait pas ?
Bah parce qu'il n'y a pas de lion en Inde.
Mais Gandhi avait la ride du tigre, alors.
Le tigre est un fleuve. Il passe à Rome.
Pardon, mais c'est le tibre qui passe à Rome.
Ah bon ?
Oui, le tigre passe en Irak.
Et en Turquie aussi.
On ne va pas s'attaquer à l'Irak maintenant. Pas après le nazisme, pas après la déportation, pas après la ride du lion, non.
Alors ce texte, Stéphane Guérin, c'est vraiment un cadeau que pour chaque acteur qui peut développer à l'envi une palette extrêmement large, puisque les personnages sont très différents entre eux, mais chacun d'eux évolue énormément d'un bout à l'autre du spectacle. C'est d'abord en pensant aux spectateurs ou d'abord en pensant aux acteurs que vous écrivez ?
J'écris toujours en pensant d'abord aux acteurs. Je n'écris pas pour des acteurs en pensant à
quelqu'un,
à quelqu'un en particulier.
Ni même à un type d'acteur.
Non.
Vous pensez à un personnage ou vous pensez à la personne qui jouera le personnage?
Je pense à des figures. Une figure, voilà, plutôt qu'un personnage. Voilà.
Alors là, comme ça, vous avez accouché de cette pièce de quelle façon, si j'ose dire? Quel personnage, au singulier ou au pluriel, je ne sais pas, vous aviez en tête dès le départ?
En fait, tout à fait honnêtement, l'équipe, ces comédiens, j'aurais pas pu rêver mieux. Voilà, je trouve qu'ils incarnent absolument ce que moi, modestement et humblement, j'ai couché sur le papier.
Mais en écrivant, vous saviez qui allait jouer ?
Ah non.
Tel ou tel personnage, pas du tout.
Non.
Vous n'avez pas écrit pour chacun d'eux.
Non, hein. J'avais des silhouettes, des figures, encore une fois, mais rien de précis, j'avais pas de nom, vraiment.
Parce que votre langue, elle est vivante, elle est charnelle, on a vraiment l'impression qu'elle s'incarne, quoi. C'est une langue incarnée dans le corps de chacun des acteurs et des actrices qu'il y a sur le plateau.
Mais ils ont fait un travail formidable et ça, c'est aussi, je dois remercier infiniment Anne Bouvier qui les a menés tout au long des répétitions, qui les a tenus par la main, comme on entre dans une grande forêt, voilà, en disant oui, venez, suivez-moi, n'ayez pas peur.
Oui, alors oui, mais en même temps, vous leur donnez pas réellement de boussole. Alors je sais pas si vous les aidez ou si vous les aidez un peu trop, je sais pas, parce que il y a quasiment pas de ponctuation. Dans
non.
Le texte. Alors ça aide le comédien ou au contraire ça l'oblige à se jeter dans le vide?
Je crois que c'est un peu des deux en fait. Ça l'aide parce que il place la ponctuation là où il veut, donc chaque respiration dans chaque phrase comme il l'entend, et ça les perturbe aussi parce qu'effectivement ils ont l'impression de se jeter dans le vide, et la ponctuation ça sert aussi à se retenir, quoi. Donc là il n'y en a pas. Donc,
comment est-ce que vous procédez pour créer, on va pas dire un personnage, mais non, une figure? Vous faites des fiches, des colonnes avec le côté
mais
positif, le côté
tout.
Négatif, comment ça se construit?
Ça se construit dans ma tête, j'ai une période d'incubation, très longue, oui, où j'incube, j'infuse, je sais pas, c'est au choix. Et puis quand je sens que c'est quand je sens que c'est prêt, j'y vais. Quoi.
Alors par exemple, le personnage de Judith, l'actrice,
oui.
Que vous en connaissez des actrices,
ah,
hein,
oui, oui.
Voilà, donc c'est Julie Cavanagh qui l'incarne sur scène. Vous en connaissez beaucoup des actrices comme celle-ci?
Oui.
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 Alors allez,
oui.
Comment? Décrivez-nous le personnage de Judith. Alors,
disons qu'elle a un peu une hypertrophie du moi. Elle est très égocentrique, elle est très en boucle. Je citerai pas de nom, mais quand j'ai écrit
ce personnage,
quand j'ai écrit ce personnage, oui, j'avais des images d'actrices qu'on connaît tous ici, mais je ne citerai pas les noms encore une fois. Vous savez, ces gens qui sont en boucle, qui ne parlent que d'eux, qui en parlent très bien d'ailleurs, mais qui ne s'intéressent peu, qui s'intéresse peu aux autres et au monde d'ailleurs.
Alors c'est vrai qu'on peut pas rester insensible quand on est spectateur à chacun des personnages. Parfois on est agacé, parfois on est en colère, parfois on est en empathie. Bon, on rit beaucoup, hein, c'est souvent drôle, mais c'est vrai que on s'interroge aussi parce que, comme souvent et même comme toujours dans vos textes, Stéphane Guérin, la mort n'est jamais loin. On évoquait la Shoah tout à l'heure, mais il n'y a pas qu'à travers ce prisme-là que vous parlez de la mort. Et puis rien que le mot kamikaze, hein, c'est vrai que ce mot kamikaze est prononcé par Sarah d'ailleurs, c'est
oui.
Pas un hasard, hein, on dira pas pourquoi, mais c'est pas du tout un hasard que ce soit elle qui prononce ce mot-là dans la pièce, et elle utilise une expression, l'expression shrapnel organique. Vous pouvez nous expliquer?
Alors, les shrapnel organiques, c'est quand un terroriste se fait sauter, les gens à proximité, des semaines, des mois plus tard, ils ont des grosseurs sur la peau. Donc ça, ce sont des shrapnels organiques, c'est-à-dire c'est le corps du kamikaze qui est propulsé avec une telle force qu'il est avalé par d'autres peaux. Voilà, c'est atroce.
Est-ce que tu savais que le mot valise vient d'un mot gallo-romain tiré du latin valare qui signifie protéger?
Bizarre.
Non, pas bizarre, protéger.
C'est bizarre.
Non, c'est pas bizarre, c'est protégé.
Si, c'est bizarre.
Tu veux bien arrêter de répéter ce mot, c'est énervant, hein?
C'est bizarre, il n'y a pas d'autres mots.
Mais bien sûr que si, il y a d'autres mots, mais nous ne les connaissons pas.
Je me suis jamais senti protégé. J'ai jamais été protégé, d'ailleurs. Ni par mes parents, ni par Hélène. Ni par les élèves, ni par les professeurs qui déboulaient dans mon bureau comme si j'étais un petit proviseur d'une zone d'éducation prioritaire qui pouvait faire des miracles.
Tu as fait des miracles, Franck. Tu as essayé de sauver une vie. Qui sauve une vie sauve le monde, non?
Mais je l'ai pas sauvé.
T'as essayé.
J'ai essayé. J'ai raté.
Alors vous connaissez la phrase du général de Gaulle, hein, Stéphane Guérin, la vieillesse est un naufrage. Est-ce que pour vous, la vie n'est pas un naufrage?
Non, la vie n'est pas un naufrage. Non. Je pense qu'on peut trouver de l'espoir. De l'espoir partout, et puis il faut essayer de maintenir les choses assemblées. On est là sur Terre, on vit, voilà.
Enfin, tant bien que mal, parce qu'il est question du Titanic dans la pièce. Bon, il y a le tableau final qu'on va pas révéler, mais quand même, on a un peu un sentiment pas très positif lorsqu'on sort.
Non, mais vous savez, Edith Piaf, on lui disait, mais pourquoi vous chantez que des chansons tristes? Elle disait toujours, c'est pour être plus gay. Donc finalement, je suis pas très très loin de ça. J'écris des choses noires, parfois violentes, mais je suis pas forcément comme ça dans la vie. Enfin, bon, du moins, j'espère.
Vous me rassurez.
Je suis pas le mieux placé pour en parler.
Vous me rassurez. En tout cas, cette pièce, Stéphane Guérin, elle va avoir une suite, ou plus exactement, un avant. Hein, c'est ce qu'on appelle un préquel, un épisode qui se déroule avant ce que l'on découvre dans Kamikaze, et un texte qui est déjà écrit, qu'on peut découvrir ici même à l'Hôtel d'Europe le 17 juillet avec tous vos acteurs. Et ça s'appelle
Les Jours Meilleurs.
Merci beaucoup, Stéphane Guérin. Kamikaze, en attendant Les Jours Meilleurs, mise en scène Anne Bouvier au Théâtre Buffon jusqu'au 20 juillet. 29 juillet, soyons précis, 29 juillet, relâche les mardis 17 et 24.
Merci beaucoup.
Le Festival d'Avignon, le off, Margot Bédé, le in.
C'est une histoire de génération, une histoire de femme, une histoire de deuil aussi. La pièce Rouge, histoire de la petite fille aux chaussettes rouge sang, nous emmène dans le monde fantastique de l'enfance, une pièce de Véronique Boutonnet que Margot Bédé est allée voir pour nous.
L'été est fini, l'été est fini.
Une lumière révèle par intermittence des visages. La fille, la mère, la grand-mère. La lumière habille. Pas les comédiennes, non. autre chose. Véronique Boutonnet est l'auteur de la pièce.
La lumière, c'est toute la scénographie, en fait, de la pièce. C'est ce qui va créer la théâtralité, c'est ce qui va créer l'imaginaire. Parce que finalement, la lumière, elle, à aucun moment, elle est réaliste. Et moi, je trouve qu'avec la lumière, on peut créer cet effet de troisième dimension, un peu. On sculpte l'espace.
Là où la lumière devient architecture, cette musique que l'on entend donne vie à un personnage un peu particulier.
Le fleuve, d'abord, c'est tout simplement le personnage clé de la pièce. C'est là où tout se noue. C'est là où le frère est mort, c'est là où le grand-père va pêcher les poissons. C'est le lieu de vie, de travail. C'est le lieu, la maison elle est collée au fleuve. Et puis c'est le lieu visiblement de la mort. C'est aussi ça peut représenter aussi le Styx, l'espèce de fleuve qui emmène vers les enfers.
Je sais pas comment je vais réparer tout ça, mon sang. Je sens mauvais. Ça fait peur, ce fond entre les jambes. Je fais quoi, maman?
Le fleuve, le sang, celui qui coule quand les petites filles grandissent et ne comprennent pas ce qui leur arrive quand un drame chamboule une famille. Véronique Boutonnet voulait avant tout parler de ce réapprentissage de la vie.
Comment un être en construction, donc qui est pour moi l'adolescent, arrive à affronter une destruction. Elle est en construction et là, il se passe un événement qui casse tout. Et tout arrive en même temps, la mort du frère, les premières règles, les premiers émois. On le voit pas, mais on peut l'imaginer, peut-être un conflit avec sa mère, ou voilà, des choses finalement très très banales, hein, qu'on connaît tous.
Je suis rien que du sang pourri. Je baigne dans le sang pourri. Ça, c'est pas grave, tu le sais ça, hein, maman. Je baigne dans le sang pourri, ça, c'est pas grave, on s'en fout. Je sais, mais je m'endors.
Une presque jeune fille.
Dans Rouge, la poésie est crue, les mots sont gourmands, la nature est partout. Madeleine Fortumo joue la petite fille.
C'est très agréable à vivre, à jouer. C'est vrai que Véronique nous a beaucoup fait travailler dans la direction d'un côté très pur, très sensoriel, très animal et brut. Parce que c'est là-dedans qu'on trouve les premières essences, les choses, les premiers instincts. Pour être au plus proche de ce qu'on ressent, de ce qu'on est dans le fond. Et du coup, moi, j'ai l'impression que quand je joue ce spectacle, avec cette direction-là, que je triche pas.
Manu, c'est moi.
Salut, mon pote.
Il ne se passe rien.
Attends, laisse faire, sois patiente.
Manu, c'est moi.
Il sait que c'est toi.
Je suis là.
Tu sens quelque chose?
Là.
Frotte bien la paume de ta main,
le
plus fort.
Alors
ça y est, génial, on établit le contact.
Guidée par son voisin, interprété par Victor Duez, la jeune fille entre dans un monde parallèle, celui de l'imagination. Un univers qui a beaucoup plu à Marie dans le public.
C'est beaucoup dans le mouvement, c'est très esthétique aussi, et on sent vraiment partir un peu dans ce tourbillon de folie et de créativité, d'imagination de l'enfance, enfin, c'est magnifique.
Et quand on demande à Véronique Boutonnet comment a-t-elle quitté ce monde de l'enfance?
Ah ben non, on y est toujours, sinon on ferait pas du théâtre.
Rouge, histoire de la petite fille aux chaussettes rouge sang, nous emmène donc dans un monde un peu écorché et plein de beauté.
Les Rouges, c'est donc au Théâtre des Barriques tous les jours à 19h30, sauf le mardi, jour de relâche. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain avec deux spectacles qui nous parlent du XXe siècle à travers des destins de femmes, de textes de grandes auteurs françaises. Les années d'Annie Ernaux, que Jeanne Champagne présente au Petit Louvre, et Suite française d'Irène Némirovski avec Florence Pernel et Béatrice Agenin. C'est au Théâtre du Balcon avec Virginie Lemoine à la mise en scène. À demain sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.